Solidarité anti-Covid-19, partout dans le monde et aussi sur Libre Radio. Ensemble, nous combattons le coronavirus. Retrouve les podcasts et des informations vérifiées sur www.libradio.org.
Nous sommes en avril 2020 à l'aune de la crise sanitaire qui nous assiège et nous sommes en compagnie d'Eugenia pour le Croissant Rouge Kurde en Suisse pour la campagne que vous menez dans les desseins de lever des fonds à destination du Croissant Rouge Kurde qui manque de tout, médicaments, infrastructures, matériels médicaux.
Merci beaucoup pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, je m'appelle Eugenia, je suis bénévole pour le Croissant Rouge du Kurdistan en Suisse. Cette organisation, elle existe depuis 1993, elle a été fondée en Allemagne en fait. Et nous sommes en fait un mouvement international, nous sommes 14 organisations partenaires partout dans le monde. Et notre organisation partenaire sur les terrains est exactement Heyvasora Kurd, c'est-à-dire le Croissant Rouge Kurde, qui est au Rojava et en Irak. Alors, par rapport à ce que nous on fait, nous on essaye de travailler ici en Suisse et de apporter notre aide dans des différentes régions du Moyen-Orient et plus particulièrement du Kurdistan. En fonction des besoins qui se manifestent.
Ouais.
Donc, oui, la guerre, la pauvreté, les catastrophes naturelles et aujourd'hui aussi le coronavirus.
Voilà, parce que tu l'as dit, c'est une région du monde qui connaît déjà une situation compliquée avec un conflit, avec une guerre d'invasion, avec des déplacements de population, ce qui évidemment ne facilite en rien l'affaire. Et bien entendu, également, comme il y a eu aussi des frappes, tout simplement des frappes militaires, eh bien, il y a des infrastructures qui sont déficientes. Bien entendu, elles ont été détruites d'une certaine manière, en tout cas pour un grand nombre d'entre elles.
Exactement, exactement.
Alors, voudrais-tu... Oui, excuse-moi.
Il ne faut pas oublier qu'on vient de subir une nouvelle frappe. En fait, l'automne dernier, 2019, là, on vient de l'oublier parce que toute autre chose est survenue. Mais la Turquie vient de frapper de nouveau le Rojava. Elle a commencé en octobre 2019 et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais... Voilà, la situation est vraiment dramatique, comme tu as dit.
Et alors dis-moi, est-ce que sur place, il y a d'autres entités qui collaborent également avec le Croissant Rouge Kurde ou, parce qu'on l'a entendu pendant un long moment, le Croissant Rouge Kurde était assez esselé, en fait. C'était un petit peu la seule entité opérationnelle sur le terrain.
Exactement. Alors malheureusement, c'est le cas aujourd'hui plus que jamais. Parce que, les régions kurdes aujourd'hui ne peuvent plus bénéficier en fait des aides transfrontalières de l'ONU, des agences de l'ONU. Pour les régions kurdes, en fait, ce dispositif a été stoppé, on va dire comme ça. Après, il y a eu un vote en janvier d'une résolution de l'ONU qui est entérinant aussi en fait de nouvelles restrictions. C'est-à-dire que en fait, officiellement, on ne peut plus passer la frontière pour aller au Rojava pour amener des aides. C'est-à-dire on part de tous les agences de l'ONU qui ont siège toutes presque chez nous à Genève. Donc qu'est-ce qui se passe? Que depuis l'octobre dernier, la grande majorité des ONG qui étaient encore sur place, moi je viens. Je pense à Un Ponte Per est aussi une ONG italienne qui travaille vraiment pas mal sur les terrains. Je pense que son fondateur est encore sur place, mais tous les autres ont dû quitter le terrain parce que c'était trop dangereux. Et chez nous, qu'est-ce qu'il y a chez nous? Donc, chez nous, Heyvasora. Le fait, c'est que Heyvasora est né, on va dire, au Rojava, c'est-à-dire le partenaire Heyvasora au Rojava ne va pas aller nulle part parce qu'en fait Heyvasora Kurd est l'organisation qui s'occupe de la santé de la région. C'est-à-dire, nous avons la Croix-Rouge, eux, il y a le EVASOR. Mm-hmm. C'est-à-dire que les hôpitaux sont, et tous les personnels, le personnel médical est personnel de EVASOR. C'est-à-dire, elle va aller nulle part.
Ouais.
Et oui, et du coup, aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes assez laissés à côté. Alors, juste pour que vous compreniez la situation, pour recevoir des aides, les Kurdes, en fait, doivent obtenir une autorisation du régime de Bachar al-Assad aujourd'hui. Mais vous savez que les rapports avec Damas restent compliqués quand même, même si à la fin exactement de 2019, les troupes gouvernementales étaient arrivées dans le nord-est pour aider contre l'attaque, l'offensive turque. Mais quand même, c'est très compliqué, très compliqué. Et là, je viens très rapidement au coronavirus. Vous devez comprendre que, dans la région, pour le moment, seulement 7 patients potentiellement atteints du virus ont été enregistrés dans le nord-est du pays. Mais pourquoi ? Parce que les autorités kurdes, en fait, ne disposent pas de kit de diagnostic. Et à défaut d'alternatives, en fait, des échantillons prélevés sur des cas suspects sont envoyés dans les laboratoires à Damas pour les analyses. Hein. Mais vous voyez l'impossibilité après de recevoir les résultats de ces analyses. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas encore de cas officiellement enregistrés de coronavirus dans la région. Une région qui compte quand même 4 millions d'habitants.
Ouais. Appel d'urgence Covid-19, ça c'est vraiment ce qu'il faut immédiatement retenir. On trouve ça sur le site www.eivasor.ch. Eivasor, ça s'écrit Eivasor.ch. Faites un don pour sauver des vies. Alors on va immédiatement donner l'IBAN. L'IBAN, c'est le numéro suivant, CH62, espace 0076, espace 7000, donc 730, espace L543. Espace 3416, espace 5. On mettra bien entendu ce numéro au libellé de ce podcast. C'est à la Banque cantonale vaudoise que l'on peut faire ce don.
Oui, c'est ça. Et par rapport au don, juste une petite remarque. Nous continuons à avoir malheureusement des difficultés par rapport à notre aide humanitaire. Donc, on vous conseille de ne pas mentionner dans le don le mot Kurdistan, parce que le mot Kurdistan apparemment fait très peur aux banques suisses. Et donc, très souvent, si comme motivation de paiement il y a le mot Kurdistan, très souvent le paiement est bloqué.
Donc, il vaut mieux ne rien mettre du tout.
Oui, c'est d'accord. Ça.
Caroline, Caroline.
Oui, en fait. Qu'est-ce qui se passe au niveau des personnes en renfort au Rojava, les personnes qui ne sont pas de nationalité kurde? Parce que la plupart sont rentrées chez eux à cause du Covid-19. Comment ça se passe?
Les internationalistes, eux, ils restent. Les personnes qui sont parties pour soutenir la cause kurde aussi, d'une manière, on va dire, la cause politique kurde. En ce qui concerne l'aide humanitaire, EVASOR reste. Les autres ONG humanitaires, beaucoup d'entre eux sont partis, sinon toutes. Mais c'est-à-dire que tous mes amis, mes camarades, pour la plus grande partie européens, sont encore là-bas. Ils restent là-bas et continue à vivre comme toujours, parce que la vie continue, doit continuer. Mais ce que je voulais souligner ici, là, c'est vraiment la départ des grandes organisations internationales, celles qui devraient avoir plus de moyens que nous pour vraiment faire arriver les médicaments, les ambulances, les respirateurs, qu'il y en a seulement 40 dans toute la région. Donc, un respirateur pour 100 000 personnes. Donc oui, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question.
Est-ce que vous avez peur d'une explosion de cas, parce qu'il y a une grande proximité, j'imagine, entre les personnes. Donc oui. C'est difficile de respecter peut-être des distances.
Tout à fait. Je viens de lire dans le dans un rapport du Rojava Information Center, si jamais ça c'est toujours un bon lien pour retrouver des informations sur Internet, je viens de lire que ça semblerait que le taux de mortalité prévu dans les quins, parce qu'il faut quand même ne pas oublier qu'il y a beaucoup d'équins de réfugiés, mais aussi les centres de détention où il y a encore les familles, les enfants, les femmes des affiliés à l'État islamique, bah, ces taux de mortalité semblerait être proche de 10%. Donc, ces chiffres sont toujours très difficiles à interpréter. Pour vous dire, bah, le taux de mortalité à 10% était aussi détecté en Italie au début de la crise. On est descendu à 11% magiquement parce que les tests ont été faits et plus ou moins. Mais ici, il faut pas oublier qu'on est dans une région où exactement la diagnostic est absolument absente. On peut pas en fait vraiment voir si les personnes sont malades ou pas. On reconnaît bien sûr la maladie, mais donc oui, en fait. Les camps de déplacés surpeuplés restent la principale préoccupation. Et il faut aussi ajouter, et ça c'est un autre point très important, le problème des coupures d'eau. Depuis plusieurs jours, la station d'approvisionnement en eau de Alouk, donc près de Serekaniye, contrôlée par la Turquie et ses supplétifs syriens, ne pompe plus d'eau à destination de Zonkur, c'est-à-dire cette station d'Alouk fournit habituellement de l'eau à environ 700 000 personnes. C'est entre 700 000 ou 1 million de personnes dans une région où il y a 4 millions de personnes qui vivent. Donc, vous voyez que si on n'a même pas de l'eau pour se laver les mains ou pour juste boire, pour se laver, c'est dramatique. Et c'est encore une fois l'idée que ça soit une décision de la Turquie militaire et stratégique. C'est absurde et dramatique et incroyable.
Est-ce qu'il y a moins d'attaques de la part de la Turquie en ces temps un peu de coronavirus ou bien pas du tout?
Alors, les attaques directes…
Elles sont différentes, en fait. Elles sont plus sournoises.
Tout à fait. Mmh. Et pour te dire, les coupures d'eau ont commencé… ont commencé le 20 mars ou le 15. Donc, c'était où, ici en Europe, la crise a vraiment commencé à débuter. Au Rojava, on ne savait pas encore qu'est-ce que ça allait passer dans la région. Et là, moi, je ne peux pas croire que c'est juste un cas que la Turquie ait choisi de couper l'eau d'une station d'approvisionnement si importante pour la région. Et il faut dire que la Turquie a fait ça systématiquement depuis octobre-novembre 2019. Systématiquement. Et malheureusement, on a arrêté d'en parler trop tôt, je dirais, parce que à la fin de l'année, décembre, après, avec la nouvelle année, les médias ont juste arrêté de parler de la situation en Syrie et au Moyen-Orient en général. Mais c'est ça. Comme tu as dit, la Turquie continue à attaquer. Les façons sont différentes d'attaque, mais elle continue, malheureusement.
Et comment est-ce que toi, tu vis la situation? Est-ce que tu as un sentiment d'impuissance et de tristesse?
Oui, absolument. Surtout parce que nous, on est ici, en Suisse, et ce que nous, on peut faire, c'est de parler avec des personnes qui puissent vraiment aider en quantité aussi financière importante. Et donc, ce que nous, on doit faire, c'est d'aller partout pour parler, pour convaincre les personnes, surtout les autorités publiques, parce que nous, on a besoin vraiment de ce genre de soutien. Et là, nous ne pouvons plus rien faire. Là, heureusement, on est arrivé à présenter une demande de soutien à la ville de Genève. Là, on croise les doigts et j'espère vraiment que ça va marcher. Mais là, nous sommes, comme tout le monde, à la maison, confinés. On travaille sur Internet. On a lancé cette campagne sur Internet. Mais La présidente et une autre collaboratrice de Eivassor avaient planifié de partir au Kurdistan irakien pour les vacances de Pâques, pour aussi voir l'avancement de projets qu'on est en train de réaliser là-bas, donc dans la construction d'un hôpital et la construction d'un centre pour les enfants avec des problèmes mentaux. Donc vous voyez que même dans le pratique, on peut pas se rendre là-bas, on peut pas avoir les résultats ou les choses ne peuvent pas avancer. Et derrière, il y a toute une bureaucratie que l'on doit respecter, comme il faut montrer les déroulements de travaux, il faut montrer que le bâtiment a été construit pour l'hôpital, il faut après montrer pour obtenir de l'argent. C'est tout très compliqué et là, c'est des problèmes, bien sûr, bureaucratiques et des problèmes qui sont superflus, tu vas dire, mais en fait, c'est ce que nous, on fait tout le temps pour essayer d'aider matériellement les gens là-bas. Et là, on est juste devant les informations qui nous arrivent comme ça tout le temps et on peut rien faire, c'est juste on peut parler avec les gens. C'est pour ça que c'est tellement important que vous me concédez en fait l'opportunité de parler ici, parce que on a exactement besoin de ça, non? C'est ça qu'il faut faire.
Et quel est le lien entre la Croix-Rouge, le Croissant Rouge kurde et la Croix-Rouge? Est-ce que vous êtes soutenu par la Croix-Rouge ou au contraire vous êtes complètement esselé et livré à vous-même?
Ça, c'est une question que les gens nous posent très souvent. Nous ne sommes pas liés au mouvement international de la Croix-Rouge, dans le sens où le mouvement international de la Croix-Rouge ne peut pas nous reconnaître officiellement. Mais heureusement, nous sommes en bon contact avec les collaborateurs qui s'occupent de la situation au Moyen-Orient, dans le mouvement de la Croix-Rouge. Et ça arrive que on a besoin des informations ou de l'aide réciproque en fait pour arriver à savoir certaines choses. Donc non, nous ne travaillons pas parce que nous ne sommes pas officiellement reconnus, parce que nous n'existons, parce que le Kurdistan n'existe pas en tant qu'État et parce que le mouvement de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge, malheureusement existe sur la base d'une organisation mondiale étatique. Et en étant le Kurdistan inexistant d'un point de vue politique, géopolitique, ben nous, on n'est pas reconnus. Mais on existe quand même. Et donc, notre légitimité à exister a été quand même approuvée. Mais officiellement, nous ne sommes pas... les bienvenus parmi les participants du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Ouais. Alors, www.eivassor.ch, c'est le site internet sur lequel on trouve plein d'informations. Il y a également des photos, même on peut voir quelle est la situation sur place. Et il y a évidemment le visuel de la campagne de soutien. Faites un don pour sauver des vies. Dis-moi, Eugenia, alors, tu l'as dit, le Croissant Rouge kurde n'est pas reconnu, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu au sein de la Fédération des sociétés de Croix-Rouge, j'imagine, des sociétés nationales de Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Mais est-ce qu'on pourrait espérer que le CICR, lui, puisse envoyer, par exemple, un avion hôpital ou du matériel ou des choses comme ça? Ou si ça n'est pas le CICR, qu'interviennent des autres entités telles que Médecins du Monde ou Médecins Sans Frontières? Ou est-ce que là aussi c'est compliqué et il faut d'abord en passer par une pression politique d'une certaine manière?
C'est très compliqué. Il faut toujours, malheureusement, passer à travers l'autorisation étatique. Mm-hmm. C'est-à-dire que la Croix-Rouge n'arrive pas à passer la frontière turque entre Turquie et Syrie sans avoir l'autorisation du gouvernement turc et du gouvernement syrien. Même chose pour les autres ONG internationales. Donc, Médecins Sans Frontières n'est pas sur place, de ce que je sais aujourd'hui. Même chose pour Amnesty, eux ne sont pas arrivés, ils n'arrivent pas. Il y a eu des essais dans le passé, mais c'est vraiment très compliqué parce que quand tu arrives vraiment devant un bloc, et ce bloc est le bloc de la frontière, et tu dois passer, et tu as toutes tes intamboulances, et tu dois juste passer parce que tu vois que Serekanié est juste à quelques mètres après la frontière. Je parle de Serekanié parce que elle est l'une des villes les plus touchées, et dans cette ville, il y a aussi un hôpital très important et malheureusement presque détruit. Vous voyez l'absurdité du fait qu'on ne peut même pas passer la frontière avec les ambulances parce que les autorités gouvernementales ne donnent pas l'autorisation. Bah, c'est comme ça qui marche aujourd'hui.
Alors peut-être qu'une des pistes, ce serait effectivement que les gouvernements fassent pression sur le gouvernement turc. Tu penses que ça, ce serait un chemin, une possibilité, ou même là, selon toi, c'est le ciel est plutôt sombre de ce côté-là également?
Aujourd'hui, avec malheureusement Erdogan, moi je vois les ciels très sombres, mais ça serait la voie, ça serait exactement ça. Nous avons en fait besoin que le gouvernement turc laisse en paix cette région de la planète.
Ouais. Donc on comprend bien que là, c'est un isolement sanitaire et pas que sanitaire complet, avec des infrastructures manquantes, avec effectivement, comme on l'a dit, c'est une guerre, des attaques, des avions qui ont bombardé des infrastructures également, avec ce problème d'approvisionnement pour les médicaments, mais également pour tous les autres matériels, ce problème d'accès à l'eau qui n'est pas assuré, le problème de l'accès à l'énergie également, parce qu'on l'a vu, hein, le gouvernement turc assèche des barrages pour que l'électricité, pour qu'il y ait moins ou plus d'électricité par moment. Donc il y a vraiment une problématique incroyable qui assiège toutes ces personnes nombreuses, et parmi elles évidemment beaucoup d'enfants, de jeunes, de femmes, d'hommes, beaucoup de personnes de tous horizons, quoi. Ce que l'on peut dire, alors pour résumer, c'est que ces personnes-là, eh bien, elles ne peuvent compter que sur cette campagne de dons. Donc il faut vraiment, vraiment que les personnes comprennent cette situation terrible, qu'on en prenne toute la mesure, parce qu'effectivement, on s'aperçoit ici, on a vu certains comportements un peu excessifs et quasiment même irrationnels en Europe, dans l'Occident, disons, riche, en tout cas plus riche que... sans commune mesure avec le Rojava et le Kurdistan, eh bien, il faut vraiment s'imaginer une situation là-bas dans une situation de guerre, quoi. Donc, il y a vraiment, c'est ça qu'il faut faire, c'est vraiment des dons.
Oui, oui, ça, c'est ce qu'il faut faire.
Est-ce que vous avez déjà pu récolter un petit peu d'argent? Est-ce que tu sens qu'il y a quand même des personnes qui se solidarisent, ou est-ce que, eh bien, les personnes, comme elles sont touchées également par cette problématique-là, on sent qu'elles ont un petit peu du mal à s'intéresser à des terres qui sont peut-être éloignées et à des réalités qui sont peut-être éloignées de ce que l'on vit ici?
Alors, moi, je suis très optimiste pour tout ce qui concerne la solidarité internationale, absolument optimiste. Alors là, je suis désolée de parler de tout le temps de l'argent, mais pour vous dire, novembre 2019, donc un mois après le commencement des attaques turques, le mouvement de Eyvasor avait déjà récolté et envoyé 500 000 euros.
Génial.
C'est énorme, je veux dire. Après, il y avait eu aussi ce don très bizarre par ce Deepa Thai, ce groupe politique de gauche de l'Allemagne, qui a donné 250 000 tout seul, qui nous a fait très plaisir. Mais pour vous dire que ça bouge. Ça bouge beaucoup, les gens sont touchés par ça, tout ce qui se passe. Ma peur, c'est qu'aujourd'hui, comme nous sommes aussi en crise, ici en Europe, et pour nous, c'est absurde de rester toute la journée à la maison, on devient complètement fou et folle, et on pense être une crise, nous. On oublie en fait que ce que nous, on doit supporter, c'est rien par rapport aux autres, mais on a la tendance à oublier. Ça, malheureusement, c'est ça ma peur.
Ouais. Et dis-moi, comment tu expliques ce désintérêt incroyable, ce silence assourdissant des médias de masse, hein, clairement, mais également de la communauté internationale, parce qu'on entend très peu parler finalement de cette crise terrible qui afflige le Rojava, et on entend vraiment un silence terrible, voilà, sur des entités européennes, par exemple. Et, mais également du point de vue des médias, où on voit que ce sont vraiment, enfin, c'est vraiment pas une actualité qui est relayée, si je me trompe pas.
Oui, tout à fait. Mais moi, je pense que ça a commencé à s'affaiblir en décembre, fin décembre. Début janvier, on avait encore pu faire pas mal d'organiser pas mal de soirées de soutien. Mais après, cette crise du coronavirus au niveau mondial est arrivée chez nous. Et en fait, nous, on ne parle que de ça. Et c'est très dangereux parce qu'après, il y a des choses qui se passent ailleurs dans la planète et on ne se rend même pas compte. Mais il y a des personnes qui profitent du fait que l'Occident soit aveugle. Je parle d'Occident, bon. Mais bon, que nous, on est devenus en fait un petit peu aveugles parce que nous sommes touchés en premier là aujourd'hui et du coup, on oublie tout le reste. Et après, il y a des choses qui se passent un petit peu partout. Par exemple, je pense au Venezuela aujourd'hui, ce que les États-Unis sont en train de faire. Je parlerai presque d'une invasion militaire, mais personne n'en parle. Moi, j'entends très peu dans les médias, même si c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Même chose dans le Moyen-Orient, ce qui se passe, par exemple, ce qui se passe en Grèce, dans les îles ou dans le camp de Moria, par exemple, on parle très peu. Tous les migrants qui sont encore en train de mourir dans la mer Méditerranée, ben on parle. On a même la Ligue en Italie a arrêté de parler de ça. Je veux dire, ça c'était son point fort de parler de ça tout le temps. Mais là, on est devenu aveugle parce qu'on a eu, on est en train de souffrir nous aussi et ça fait que notre souffrance devient plus importante que la souffrance des autres. Et malheureusement, moi, je pense que c'est le cas aujourd'hui.
Très bien. Écoute, Jenny, on arrive doucement au terme de cet entretien. On va continuer, bien entendu, de vous épauler au mieux de nos moyens et puis de se tenir en alerte, certainement. Voudrais-tu nous dire, pour en terminer, quel est, selon toi, l'état d'esprit sur place du corps médical, de l'ensemble des personnels de santé, si tu sais quelque chose, parce que j'imagine que les infos également sont rares, et également quel est l'état d'esprit des populations. Est-ce que nous sommes dans une situation où, comme on l'a vécu, en tout cas en Suisse, il y a eu un moment presque voilà de panique, hein, on peut le dire, quoi. Les gens se sont précipités pour accumuler des objets totalement inutiles, des choses comme ça. Ou est-ce qu'on a là-bas, avec des gestes barrières et des mesures de confinement, parce qu'on sait que l'organisation politique est tout à fait singulière, qu'elle est extrêmement populaire, qu'elle est extrêmement démocratique et horizontale au Rojava. Est-ce que du coup, on a quand même une population qui est voilà, plus dans la rationalité et dans la volonté d'une protection collective, ensemble, avec voilà, des agissements qui sont altruistes et solidaires.
Alors, je ne peux pas répondre à tout parce que je n'ai pas les informations, donc je vais juste dire ce que je sais. Je sais qu'il y a un confinement mis en place aujourd'hui dans la région. Je sais que l'investissement de la part du personnel de médecins et des personnels soignants est très fort. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas encore reçu de nouvelles par rapport à une panique généralisée comme on a eu ici en Suisse, en Europe. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a reçu un nombre incroyable de messages de soutien vers l'Italie de la part de toute la communauté kurde. Mais quelque chose d'incroyable. Je veux dire, ça m'a touchée énormément, bien sûr, en tant qu'Italienne, mais jusqu'à la semaine passée, on a reçu vraiment des vidéos, des messages, des mails, une campagne hashtag sur l'Italie. Et ça, c'était jusqu'à la semaine passée. Donc, là, je me demande si eux, ils sont en train de paniquer. Moi, je pense pas. Moi, je pense que à la base, eux, ils connaissent très bien ce que ça veut dire être solidaire et que c'est la solidarité, c'est la base de tout. Et après, la vie continue et la vie en guerre continue parce que Il faut dire, eux, ils sont encore en guerre. Donc, il n'y a pas seulement le virus contre lequel il faut combattre, il y a la guerre. Mmh. Donc, c'est une autre façon de vivre la vie, je pense. Nous, on est, ouais. On peut même pas imaginer. Mmh.
Ouais. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Eugenia, et je cède la parole à Caro pour la suite et la fin de cette émission.
En tout cas, merci beaucoup, Eugène. Moi, j'aurais juste une question. Toi, tu as un parcours très, très, très atypique. Comment est-ce que tu es venue à te sentir autant solidaire et touchée par le sort des militants kurdes? Parce que tu as appris le kurde, non? De zéro.
Alors, je suis en train d'apprendre. Mais moi, en fait, j'avais étudié le turc. Imaginez-vous. Non, alors, moi, j'ai passé une grande partie de ma vie en Allemagne, à Hambourg. Et j'étais toujours très politisée, on va dire, et dans les milieux solidaires de la gauche d'Hambourg, le combat pour un soutien du peuple kurde était vraiment la base. Donc oui, et donc je suis grandie en fait avec cet amour pour la cause. Quand j'étais plus jeune, donc à Hambourg, j'étais militante. Après, ça fait 3 ans que je suis en Suisse. J'étais à Genève et puis depuis quelques mois, je suis ici à Berne. J'ai voulu en fait changer parce que il faut dire, j'ai aussi perdu beaucoup de camarades et donc j'ai dû aussi réfléchir à mon investissement dans la cause, et j'ai décidé que pour être active aujourd'hui ici sur les terrains suisses, j'avais besoin de rentrer dans l'humanitaire et dans les mécanismes qui fonctionnent dans un pays comme la Suisse. Et donc je me suis investie dans ce point de vue. Et je continue, et c'est la chose la plus belle par rapport à la cause kurde, que dans n'importe quel pays tu vas trouver toujours une grande communauté kurde, communauté de militants, des amis de la cause, et tout de suite tu vas être accueilli par ces personnes, tu vas retrouver ta famille tout de suite, et donc c'est naturel, c'est très naturel. Donc voilà, aujourd'hui je suis en Suisse, demain je ne sais pas où je serai, mais je vais absolument continuer cette amitié avec la cause et avec le peuple.
Ouais. Ton engagement est vraiment touchant et vraiment nous donne beaucoup d'espoir. Est-ce que tu aurais des conseils pour d'autres personnes qui aimeraient s'engager? Est-ce qu'il y a qui est-ce qu'ils peuvent contacter? Qu'est-ce que les personnes peuvent faire s'ils ont envie d'aider le peuple kurde? Où est-ce qu'ils peuvent donner les dons? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour s'engager?
Alors j'aurais dit, bah, venez au Nevroz, qui est la nouvelle année kurde. Ça, c'était vraiment mars, donc on vient de fêter la nouvelle année kurde. Et donc, j'aimerais dire, venez au fait que nous, on organise très souvent, un petit peu partout, dans tous les cantons de la Suisse, très souvent, pendant toute l'année. Aujourd'hui, c'est pas le cas, on peut pas faire ça. Donc, ce que je dirais, il y a différentes possibilités de s'engager. Si vous sentez de vouloir vous engager d'une manière plutôt politique, il y a un petit peu partout en Suisse, il y a toujours des Rojava Committee dans chaque canton. Là, déjà, il y a pas mal de personnes qui sont très aussi intéressées à connaître nouvelles personnes qui sont aussi intéressés à participer. Et sinon, si vous voulez être plutôt dans l'humanitaire et dans les démarches bureaucratiques pour obtenir quelque chose des autorités ici politiques et locales de la Suisse, vous pouvez absolument nous écrire. Nous avons toujours besoin de personnes qui sont disponibles à nous aider. Donc, vous pouvez nous écrire un mail on peut se parler sur Skype, on peut se téléphoner. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de moyens si on veut
Donc les dons peuvent faire la différence. Donc les dons sont les bienvenus. Quel est le mail? Est-ce que tu peux rappeler le mail?
Oui, c'est info@evasor.ch.
Ça s'écrit comment?
HEYVASOR. Donc info@evasor.ch.
Donc HEYVASOR.ch, pardon. .ch. Et le site, c'est rogerinformationcenter.com.
Non, ça, c'est un site pour de l'information qui est vraiment pas mal et fait par des camarades qui sont très bien. Notre site à nous, c'est aussi comment nous on s'appelle, donc eivasor.ch. Donc HEYVASOR.ch.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup.
Merci
de venir témoigner. Je pense que c'est important.
Je pense que c'est hyper important ce que vous faites. Continuer comme ça, donner la voix à les personnes qui ont besoin de dire tout le temps quelque chose, de parler, 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 comme moi.